Alors, bonjour à tous en ce mardi 11 novembre. Michel Audet avec vous. Ben oui, je ne vous ai pas abandonné. Je suis de retour avec vous pour vous parler de voyage, de nature et de science, comme à notre bonne habitude. Aujourd'hui en particulier, je vous amène dans un endroit qui s'appelle Death Valley. Death Valley, c'est l'endroit le plus chaud de la planète, assez désertique, vous allez voir. Je vais vous parler aussi du sucre blanc. Est-ce que vous saviez qu'on en prend 31 cuillerées par jour, ce qui est énorme avec ses conséquences? Bon, on en parlera un peu. Je vous amène aussi à un endroit qui s'appelle Medellin. Medellin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était l'endroit de Pablo Escobar, le baron, le seigneur des narcos. Qu'est-ce qui est devenu Medellin maintenant? Et nos oiseaux nous quittent pour des cieux différents. Et on va voir, là, avant de nous quitter, ils ont un dernier buffet. Alors, je vais vous parler de ce dernier buffet avant de nous quitter. Et saviez-vous qu'on peut conduire légalement en textant? C'est inquiétant. Un petit swing avec ça? Donc, je vous amène à un endroit qui s'appelle le Death Valley. Un endroit désertique, mais pas plat. Et je vous mentionnerai le nom de l'auteur que je recherche actuellement. Ben oui, c'est par Danny Coulombe. Voilà. Et c'est dans Géoplanaire de septembre-octobre 2014. L'information vient d'être confirmée. Death Valley, c'est l'endroit où il fait le plus chaud sur la planète. Saviez-vous qu'en juillet 1913, près de Furnace Creek, on y a enregistré une température de 56,7 degrés Celsius? Considérable, hein? C'est la terre ancestrale des Shoshones, Timbisha. C'est à l'époque de la ruée vers l'or, au milieu des années 1800, que l'appellation « Vallée de la mort » est apparue. C'est désigné parc national en 1994. Ça couvre aujourd'hui plus de 3 millions d'acres et ça occupe une partie du désert de Mojave. Comme dans tout parc national, une infrastructure touristique qui donne accès. Il y a plus de 1600 kilomètres de route et certaines de ces routes-là sont asphaltées et permettent d'exploiter les coins les plus reculés, si on peut dire. Mais faut-il le rappeler, ce qui nous attire dans ce lieu désertique, c'est la possibilité de se promener, de marcher. Ah, si la chaleur extrême, la sécheresse et la basse altitude ne suffisent pas à piquer votre curiosité, sachez que sa géographie accidentée révèle des strates de roches colorées et qui jurent avec les pics enneigés, et le ciel bleu profond aussi. On peut randonner dans un écosystème différent chaque jour, et ça pendant une semaine. C'est en parcourant les nombreux canyons qu'on peut apprécier le plus ces incroyables couleurs. Ça passe de l'ocre, de l'orangé, du rouge, mais aussi du bleu au vert. Marcher dans des canyons, c'est vraiment déambuler dans un labyrinthe. C'est être conscient des risques aussi, de soudaines crues des eaux, on appelle ça flash flood, et prévoir une sortie d'urgence. C'est accepter d'avoir à grimper, à ramper. Certains de ces lieux les plus fréquentés possèdent un stationnement asphalté, près d'une route accessible aux automobilistes à deux roues motrices. Ça, c'est un peu plus inquiétant. Ben, ça attire une horde de touristes. Alors, s'ils sont populaires, c'est aussi en raison de leur beauté particulière, pas seulement à cause de leur accessibilité. On peut effectuer une intéressante randonnée d'une journée vers le canyon Golden. On passe alors dans un paysage lunaire, c'est typique des Badlands, puis près d'une impressionnante tour de grès rouge qui s'appelle Red Cathedral. Ben, ça parle en soi, hein, la cathédrale rouge. Le canyon Titus, lui, est le plus imposant du parc. La seule vue des montagnes, qui s'appelle Grapevine, dans lesquelles il se déploie, est assez spectaculaire pour provoquer immédiatement l'envie d'arpenter l'arrière-pays. Le nombre de canyons plus ou moins connus et pour lesquels aucun stationnement plutôt, n'en indique le départ, c'est tout simplement hallucinant. Dès qu'on pense au désert, on pense dunes de sable, le Sahara, par exemple. Mais les Meskin Flat Sand Dunes sont de loin les plus accessibles, probablement formées par les vents du nord-ouest qui emportent des fins cristaux de quartz et de feldspath des montagnes. Ça s'appelle Cottonwood. Elle propose une expérience fascinante. Si les autobus nodisés y débarquent leurs passagers pour une courte balade de 10 minutes, ben oui, on parlait de stationnement tout à l'heure, ben le temps de se mettre du sable un peu dans les baskets, c'est en marchant sur les dunes à la brunante, ou encore mieux, je dirais, au lever du soleil, que l'expérience sable du désert est à son apogée. Le reflet du soleil sur les dunes, c'est absolument magnifique. La marche aussi sur les croûtes de sel où le sable est durci par l'action du vent, c'est agréable et facile. Mais en grimpant sur les dunes de sable mou, hautes de près de 30 mètres, ben, ça devient un peu plus aérobique. Le paysage est tourmenté entre les innombrables crevasses des canyons, les imposants sommets enneigés. La vallée de la mort, proprement dite, est littéralement bordée par deux chaînes de montagnes qui courent presque en parallèle du nord au sud. À l'ouest, il y a la chaîne Panamint. Et à l'est, il y a l'Armagosa, cette dernière étant la plus accessible. C'est tellement accessible qu'une route asphaltée mène au plus populaire des points de vue, le Dance View. C'est là, en haut de ces 1669 mètres, aux petites heures du matin, qu'on décroche une vue panoramique de la vallée tout en bas de la chaîne qui s'appelle Panamint. Au plus profond de la vallée de la mort, se situe le point le plus bas des États-Unis. Donc, la partie la plus chaude de la planète et le point le plus bas des États-Unis, qui s'appelle le bassin de Badwater. Ça porte bien son nom, hein, Badwater. Ça se trouve en effet à 86 mètres sous le niveau de la mer. Une petite mare d'eau salée indique la présence d'une source, et lorsque les pluies surviennent, il y a une mince couche d'eau qui recouvre le sol. Mais le taux d'évaporation, vous vous en doutez, est si important que cette eau a vite fait de disparaître et de laisser derrière elle une fine couche de sel blanc. Alors, vous voyez la vallée de la mort désertique, mais pas plate, hein? On a vu, il y a toutes sortes de paysages extraordinaires. Et ça, c'est en plein dans les États-Unis. Et c'était Danny Coulombe qui nous en parlait dans Géo plein air de septembre-octobre 2014.
Still we come.
Donc, c'était Amadou et Mariam avec Dugong Badia. Maintenant, deux sujets, en fait, qui se recoupent. Je vous parle d'abord de l'obésité infantile qui explose dans le monde. Et c'est dans Science et Vie d'août 2014. Mais on passe au sucre raffiné. Donc, il y a un rapport très étroit entre les deux qui est tiré de Géoplanaire, octobre 2014. Il y a une étude qui a été menée par plus de 150 chercheurs qui livre un bilan inquiétant de l'état de l'obésité infantile en 2013. Dans les pays développés, les moins de 20 ans sont aujourd'hui 23 % à être obèses ou en surpoids, et contre 16 % en 1980. Avec l'évolution des modes de vie, les chiffres ne cessent de croître dans les pays en développement où l'obésité touche un jeune sur 8 en moyenne. Et certains pays connaissent même des hausses dramatiques, comme le Chili et la Chine, on s'en doute, qui comptent plus de 16 % d'enfants obèses ou en surpoids supplémentaire par rapport à 1980. On sait qu'en Chine particulièrement, le mode de vie a changé considérablement. Autant d'enfants susceptibles de devenir des adultes obèses avec les problèmes de santé que cela engendre, maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, et j'en passe. Et on sait que l'un des problèmes importants, c'est la consommation de sucre sous toutes ses formes. Alors, saviez-vous que les Canadiens consomment en moyenne chaque jour 31 cuillerées de sucre ajouté, provenant majoritairement du sirop de maïs et du sucre blanc raffiné. Alors, ces sucres apportent peu d'éléments nutritifs à notre alimentation et peuvent augmenter les risques de développer un diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et, bien sûr, l'obésité. Quelles autres options s'offrent à nous pour éviter ces sucres raffinés? Je vous fais part de trois produits qui sont de plus en plus populaires sur le marché québécois. D'abord, le sirop d'agave. Il s'agit d'un produit relativement nouveau qui gagne, on nous dit, en popularité dans les supermarchés. Il est élaboré à partir de jus extrait de l'agave. Ça porte son nom à l'agave tequilana. L'agave bleue, c'est avec quoi on fait la tequila en passant. Et c'est une plante qui pousse au Mexique. Et pour obtenir ce sirop, le jus doit être chauffé ou traité pour hydrolyser les glucides complexes en sucre raffiné, puis filtré et concentré en sirop. Et il est reconnu pour son indice glycémique bas, ce qui permet d'éviter les pics d'insuline après sa consommation. Et d'autres études doivent cependant être menées afin de savoir si ce produit est intéressant pour les diabétiques. Le goût et la consistance du sirop d'agave sont similaires au sirop de maïs, mais son pouvoir sucrant, et c'est là que c'est important, est cinq fois plus élevé que celui du sucre blanc, en raison de sa forte teneur en fructose. Par conséquent, pour substituer le sucre blanc dans une recette, attention, on doit diminuer la quantité de sirop d'agave. Bien sûr, c'est cinq fois plus... c'est un produit plus sucrant, si on veut. Autre produit, le stevia. Depuis novembre 2012, il est possible de trouver dans les supermarchés le stevia sous forme d'édulcorant de table et dans certains aliments comme le yogourt, entre autres. Ce succès d'année de sucre est extrait d'une plante appelée Stevia rebaudiana, qui est originaire, on s'en doute, d'Amérique du Sud. On le trouve sous forme liquide ou en poudre. Et l'attrait de ce produit réside dans son apport calorique nul. Son pouvoir sucrant, 200 à 300 fois plus élevé que le sucre blanc. Et son impact négligeable sur la glycémie après sa consommation. Alors, il peut remplacer le sucre dans les recettes puisqu'il est extrêmement stable à la chaleur. Et pour substituer le sucre blanc au stevia, il est important de suivre les instructions du fabricant parce que, évidemment, les quantités dépendent de la forme du produit utilisé, 200 à 300 fois plus élevé. Alors, si vous mettez la même quantité que le sucre blanc, vous allez avoir un problème de goût particulièrement. Et enfin, il y a le sirop d'érable aussi. Bien connu et apprécié chez nous, le sirop d'érable est de plus en plus utilisé comme substitut au sucre blanc dans l'alimentation. Alors, plusieurs études ont d'ailleurs démontré que le sirop d'érable obtenu en faisant bouillir la sève d'érable renferme plusieurs composés phénoliques et certains d'entre eux aurait un pouvoir antioxydant élevé. Alors, ces antioxydants protégeraient donc les cellules du stress oxydatif causé par les radicaux libres. Et, important aussi, ce sirop contient plusieurs nutriments comme le calcium, le potassium, le magnésium, le phosphore, le fer, la thiamine et même une bonne source de manganèse et une bonne source de zinc. Donc, des propriétés, des qualités nutritives importantes aussi. Alors, pour substituer le sirop d'érable au sucre blanc dans une recette, il faut diminuer la quantité de liquide de cette dernière. Ben oui, parce que le sirop d'érable est quand même liquide. Et pour remplacer une demi-tasse de sucre blanc, on utilise la même quantité de sirop d'érable, mais il faut retrancher la quantité d'eau, bien sûr. Il est donc assez facile de remplacer le sucre blanc dans notre alimentation. Cependant, il faut se rappeler qu'une alimentation trop riche en sucre, quel qu'il soit, peut augmenter les triglycérides sanguins, abaisser le taux de bon cholestérol et, évidemment, comme on en parlait au début, augmenter le poids et nous diriger vers l'obésité. Alors, c'était tiré en partie de Géoplanaire, octobre 2014, et aussi de Science et vie, ou 2014. Narco-design et tourisme. Violaine Balivi dans la presse du 20 septembre 2014. C'est pas avec sa réputation de capitale de la production de cocaïne que Medellín aurait pu, il y a quelques années à peine, oser s'afficher comme une destination touristique. Encore moins avec celle de capitale de la violence. C'est un titre dicté par une moyenne de 18 homicides par jour. Dans le temps de Pablo Escobar, pour une population comparable à celle de Montréal. À Montréal, c'est 30 homicides par année. Donc, ce qui fait, après un bref calcul, comme homicide, ça fait 6 570 personnes homicides par année. Or, les choses ont changé radicalement. Maintenant que nous avons fait un certain ménage, amélioré la sécurité, nous pouvons enfin penser développer cette avenue. Et ça, c'est une entrevue avec le maire de Medellín. Le printemps dernier, sa ville accueillait le Forum mondial d'urbanisme. C'est un symbole de la métamorphose majeure que la ville a entreprise ces dernières années, suscitant l'envie de bien des villes d'Amérique latine. Car sa transformation dépasse et de loin l'offensive armée menée par les autorités dans les années 1990-2000 pour purger Medellín des cartels de la drogue. Et ceux de son plus célèbre parrain, Pablo Escobar, et ses disciples. Pablo Escobar, qui dans son milieu était considéré comme un dieu, parce que ben, il avait amélioré le paysage, il avait amélioré le mode de vie des gens autour. Mais plus que tout, Medellín a décidé de miser sur l'architecture, le design, l'urbanisme pour repenser l'organisation de son territoire et lutter contre les fractures sociales, les grandes différences. La construction du métro a donné le coup d'envoi de la revitalisation de Medellín. Ses concepteurs ont eu la brillante idée d'utiliser un téléphérique pour relier les quartiers qui se sont développés de manière anarchique sur les flancs escarpés autour du centre-ville, des bidonvilles, bien sûr, avec le même genre de gondole que l'on retrouve dans les stations de ski. Et si le prix du téléphérique est inclus avec le billet de métro, ça coûte environ 2 $. Ben, c'est évidemment une aubaine pour les touristes qui veulent profiter d'une vue magnifique sur la ville. On a dit, regardez comme le métro est propre. On dirait qu'il n'a jamais servi. Et ça, c'est un jeune employé de banque qui l'utilise tous les jours pour venir travailler au centre-ville qui nous le dit. Les résidents des quartiers éloignés, qui sont les plus pauvres, ne mettent plus 3 heures de marche pour atteindre le centre-ville, ce qui était le cas à l'époque, mais 30 minutes en transport en commun. Les policiers sont plus présents, les services municipaux aussi. Nous allons installer les plus beaux édifices dans les quartiers les plus défavorisés, avait dit le maire de l'époque, qui est un fils d'architecte. C'est ainsi qu'on a lancé une foule de projets, souvent dessinés par des architectes de la place même. Une solution plus économique qui permet d'exacerber le sentiment de fierté de la population et qu'on a construit l'imposante Bibliothèque Espagna en 2008. Un complexe qui surplombe la vallée à plus de 1500 mètres pour réhabiliter un secteur où on ne sortait même pas après 17 heures dans le temps. Jardin botanique, à une certaine époque, les jeunes filles n'osaient même plus fréquenter, même le jour, a été transformé par la construction d'un nouveau pavillon consacré aux orchidées, doublé d'un chic restaurant. En face, on ne reconnaît plus l'ancien terrain vague qui accueille maintenant un insectarium et aussi le musée des sciences. La ville possède aussi maintenant un vaste et moderne centre des congrès et n'est pas peu orgueilleuse de la Ruta. C'est un édifice orangé qui sert d'incubateur pour les entreprises en démarrage dans le secteur des technologies. On y trouve tout ce qu'il y a de plus moderne. Éclairage d'ailes, certification LEED, mur végétal. Le musée d'art moderne est un autre exemple de reconversion étonnante qui est niché dans une ancienne usine désaffectée, tout comme le Merlo de Moravia, un ancien bidonville qui a été transformé en immense jardin floral et potager après la relocalisation de la population dans les habitations à loyer modique. La municipalité a aussi entrepris de recycler 18 des trop rares terrains non bâtis dans les banlieues pauvres pour y ériger des centres de services ouverts à tous avec des salles de formation Internet, des lavoirs, des aires de jeu pour les enfants. Les enfants pourront enfin s'amuser ailleurs que dans la rue. La violence reste problématique, supérieure au niveau observé au Canada. Mais le maire de Medellín espère que l'amélioration générale du climat de la ville se fera sentir dans tous les recoins. Pedro Echavarria, il y a 15 ans, sa famille craignait tellement les kidnappings qu'elle n'osait même pas visiter ses plantations de café à la sortie de Medellin. Maintenant, il a déménagé quelques années à Bogota, dans ce cas-là. Mais non seulement maintenant, il les visite, mais il a ouvert un populaire bar à café sur une artère coquette fréquentée par tout ce que Medellin compte de bobo, de hipster. Il nous dit, ce qui a changé, c'est que les gens sortent maintenant. Alors, Medellin, quand même, est rendu un endroit fréquentable, quand même relativement intéressant. Mais je sais que, en termes de sécurité, le gouvernement du Canada recommande de faire preuve d'une grande prudence lors des voyages en Colombie. Deux groupes terroristes connus y sont actifs. Les Forces armées révolutionnaires de Colombie, la FARC, qui est connue depuis longtemps, et l'Armée de libération nationale. Et malheureusement, le taux d'enlèvement y est encore, malgré des améliorations qu'on vient de mentionner, parmi les plus élevés dans le monde. Et il ne faut pas oublier qu'on est considéré, lorsqu'on se promène dans ces endroits-là, comme des Américains. Donc, on est toujours considéré comme un peu riche. C'est Violaine Balivi qui nous en parlait dans la presse du 20 septembre.
Écoutez Kiosque Magazine.
Pour oublier que t'es parti, je mémoriserai un ordre alphabétique. Les noms vulgaires et scientifiques de tous les oiseaux d'Amérique, National Geographic. Je m'ennuie, je lis le dictionnaire de la mythologie et un magazine d'éco-piscine où je dessine au stylo B les jolies filles en mélusine. Parfois je descends parmi les humains, je marche dans la nuit en cherchant le visage d'un ami.
Donc, Ornithologie 2 de Philippe B., sélection musicale très à propos de Jean-Sébastien Laliberté, qu'on remercie. Bon, le dernier buffet des oiseaux tirés de Nature sauvage, automne 2014, et c'est Valérie Ariel Angers. Certains oiseaux, ceux qui se rendent le plus loin au sud, sont déjà partis rejoindre leur quartier d'hiver. Mais il y a une bonne proportion d'entre eux qui s'attardent encore en profitant de l'aubaine, des fruits appétissants gorgés de sucre portés par les arbustes. Plusieurs autres oiseaux, ceux qui restent avec nous tout au long de la saison froide, s'en repaissent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. Et aussi, la tendre écorce des arbustes représente aussi une source de nourriture substantielle pour plusieurs mammifères. Alors, voyons un petit peu ces différents arbustes. On a d'abord les aubépines. On nous dit qu'on en dénombre plus de 20 espèces au Québec et ont toutes pour caractéristique, sans doute, de porter des épines. La coloration automnale du feuillage des aubépines n'est pas digne de mention. Mais leurs fruits, on les appelait jadis des snelles. Et généralement rouges, pouvant aussi être jaunes, orangés. Ils s'apparentent à des petites pommes et ils persistent en hiver. Alors, ces arbustes peuvent mesurer de 2 à 10 mètres de hauteur, donc très variables. Et l'api grêche, on nous dit, utilise les épines de l'aubépine, et ça, c'est assez particulier, utilise les épines de l'aubépine pour empaler ses proies. Bon. Autre arbuste, les sorbiers, qu'on connaît bien, qui ont été des arbustes ornementaux plutôt, qu'on a beaucoup utilisés dans les parterres un certain temps. Les deux espèces sont difficiles à distinguer. Elles ont de grandes feuilles composées, produisent de belles baies orangées. C'est très joli. Et ces fruits sont comestibles, bien que leur texture soit un peu pâteuse. On trouve fréquemment aux abords des cours d'eau. Je me rappelle, lorsqu'on était jeune, qu'on voyait des sorbiers, on nous disait non, de ne pas manger le fruit des sorbiers, que c'était toxique. Bah, il semble que non. C'est pas toxique pour les oiseaux, en tout cas. Et aussi, il y a des cerisiers. On a beaucoup de variétés de cerisiers. Cerisier à grappes, le plus commun, le plus prolifique des cerisiers du Québec. Et à la fin de l'été, ces fruits sont rouge foncé, et presque noirs même parfois. Ils sont regroupés en grappes, font souvent ployer les branches tellement c'est chargé. Ils ont un goût astringent et laissent la bouche pâteuse lorsqu'ils ont mangé cru. Alors, c'est quelque chose. On en bouffait à plein lorsque j'étais jeune. Ils sont employés pour produire des gelées, des sirops et du vin. On a beaucoup produit du vin de cerise à certaines époques. Je me souviens, ma première production de vin, c'était du vin de cerise. Ils sont particulièrement abondants. Les fruits séchés constituaient l'un des ingrédients de prédilection de ce qu'on appelle le pemmican. Un pemmican, c'est une galette que des Amérindiens préparent avec du gras, des fruits et de la viande séchée. Assez particulier. Il y a aussi le prunier noir. Il est prêt à fleurir dès les premières chaleurs et avant l'apparition des feuilles. Le prunier noir est le seul prunier indigène de nos contrées à produire de véritables prunes. Ces prunes sont à 2 à 4 cm de longueur. Ça va du jaune au rouge orangé. Et ils sont meilleurs lorsque récoltés après quelques gelées. Le prunier est l'un des arbustes les plus épineux. Les épais taillis qu'ils forment sont d'ailleurs la cachette privilégiée des petits oiseaux et même des mammifères qui veulent échapper à leurs prédateurs. On a aussi le sumac, sumac vinaigrier. Difficile de l'ignorer, le sumac vinaigrier, en automne. Ses colonies tachent de couleurs flamboyantes les abords des routes et des terrains secs. On en voit un peu partout. C'est magnifique. De très longues feuilles et tournent à l'écarlate. Mais ses fruits sont regroupés en masses coniques rouges et ajoutent au portrait. Des poils qui recouvrent les fruits lui donnent un aspect velouté. De même qu'un goût vinaigré, qui a venu son nom à l'espèce de vinaigrier. En passant, l'herbe à puce est d'ailleurs la cousine. Mais pas d'inquiétude, hein? Le sumac vinaigrier est inoffensif. On trouve aussi chez nous différentes variétés de cornouiller. Et dans les paysages de novembre, une fois que les feuilles sont tombées, le cornouiller fait contraste avec ses brillantes tiges pourpres. Cet arbuste qui mesure normalement moins de 2 mètres a un port buissonnier. Il est souvent plus large que haut. Ses fruits sont blancs ou bleuâtres. Très rustique, très commun. On l'appelait autrefois « bois de calumet ». Parce que c'est entre autres avec lui que les Amérindiens fabriquaient leurs pipes. Donc, bois de calumet. Et vous avez le cornouiller, une autre sorte de cornouiller avec des petits fruits bleus, très foncés, supportés par un pédoncule rouge vif. Et on a d'autres variétés. On a le sureau blanc, entre autres choses, et plusieurs variétés de viorne aussi. Donc, tous ces arbres-là sont gorgés de petits fruits qui sont comestibles et intéressants pour les humains parfois, mais particulièrement pour les oiseaux, soit qui restent avec nous ou bien qui s'envolent vers le sud. Ah, c'était Virginie Ariel Anger qui nous en parlait dans Nature sauvage d'automne 2014.
Tu regardes flotter les nuages dans ta tasse en styromousse. Ton café goûte le bâton, la vie est douce à Montréal. La chanteuse en fait des tonnes pour capter ton attention. Baisse le volume ou sors du char, la vie est courte, fais-toi pas mal. Le vieux port est inondé d'un gros soleil debout du monde. Partirais-tu, aurais-tu le guts, qu'est-ce qui te retient à Montréal? Tu regardes valser les mouettes sur un ciel en papier bleu. Un beau portrait pour les touristes, qu'est-ce qu'on vient faire à Montréal? Ah, toi, c'est sûr, t'es venu pour elle, elle est tellement belle en uniforme. Ah, sans le savon, pis la famille, les rêves de filles à Ville-Laval. Mais toi et puis elle, c'est pas possible. Y'a comme une tâche qui revient tout le temps. Oublie le printemps, oublie la ville, la vue est plate. Change de canal. Regarde le pont à l'horizon, comment ça fait pour tenir tout seul? Ça prend du fer, pis des millions, pis toi t'as rien, fait que ferme ta gueule. Toi t'as rien sauf tout ton temps, pis tu te débrouilles avec tes mains. T'aimes le bois, t'aimes le silence, pis t'aimes son corps en queue cheval. Tes doigts écrasent le styromousse qu'on peut même pas récupérer. Un goût amer dans le fond de la bouche, une vague de blues artisanale. Tu tiens le volant comme à ta vie, t'as des secousses dans transmission. La chanteuse est endormie, quel temps il fait à Robertval. Tu revois ton père en boisson, t'entends ta mère qui rit aux larmes. Ta collection de petites machines, ta photo de classe, ton gant, ta balle. La semaine passée sur le trottoir, t'as lu un prénom dans le ciment. Y'a des souvenirs qui ont la vie dure, comme les briques rouges de Montréal.
Alors, c'était Michel Rivard avec Tire aux mousses, voilà. Bon, un texte de Denis Arcand. Je n'ai pas la date ici. On la retrouvera pour la mettre sur le site. Ça nous dit « Conduire en gérant légalement Facebook, Twitter et texto ». Texte qui nous questionne énormément. Dès l'an prochain, il en coûtera 500 $ pour installer sur n'importe quelle auto un rétroprojecteur futuriste, ça s'appelle le NAVDI, qui va afficher au niveau du pare-brise certaines données du tableau de bord, mais aussi toutes les communications électroniques arrivant sur le téléphone portable du conducteur. Il se connecte sur le téléphone via Bluetooth et toutes les notifications Facebook, Twitter, courriel, texto, appel téléphonique apparaissent à l'écran devant le conducteur, à côté des informations routières comme la vitesse, les indications routières du GPS, sans parler des applications musicales. Alors, vous imaginez, c'est projeté sur le pare-brise. Alors, le NAVDI, qui sera lancé dès janvier prochain, est muni de la reconnaissance vocale. On peut même dicter un tweet et l'envoyer sans quitter la route des yeux et sans enlever les mains du volant. Les images sont projetées sur un écran transparent de 5 pouces dans le champ de vision du conducteur. Et ce dernier perçoit une image flottante et transparente avec un effet d'éloignement comme si elle était à 2 mètres devant lui. Je pense que ça existe déjà dans certains types de voitures, mais simplement pour indiquer, par exemple, la vitesse, les données de la voiture. Mais là, c'est autre chose, là. On parle de Facebook et de reste. C'est une belle technologie, mais tout le monde n'est pas emballé par ce gadget. Les informations du tableau de bord, du GPS au pare-brise, c'est très bien. Mais c'est une énorme distraction. Et ça, c'est un ancien pilote de course qui est devenu coach de pilotage, instructeur de conduite avancée, qui nous le dit. Une énorme distraction. Et il nous dit ceci, ces gens-là, NAVDI, sont intelligents et vraiment forts en technologie, mais ils ne comprennent pas ce que c'est que conduire. C'est encore un autre gadget qui fait abstraction de la complexité de l'acte de parler et d'écouter. À partir du moment où une conversation téléphonique devient plus complexe que « bonjour », on devrait arrêter son auto. Converser requiert l'attention qui devrait normalement être portée sur la route. Il ajoute que son téléphone est toujours éteint quand il conduit en ville. Et là, je vous rappelle que celui qui nous dit ceci, c'est un pilote de course devenu coach de pilotage. Donc, il connaît qu'est-ce que c'est que la conduite. La compagnie souligne qu'elle a simplifié les fonctions de communication et les applications qui apparaissent sur le pare-brise pour minimiser les distractions. L'argument de vente, écoutez bien ceci, est que l'affichage tête haute et la reconnaissance vocale sont bien plus sûrs que regarder son iPhone et l'utiliser pour texter, tweeter ou gérer ses applications. Donc, entre deux mots, il faut choisir le moindre. C'est là le principe. En principe, c'est une bonne idée, mais en pratique, c'est un pare-brise bien trop achalandé et un conducteur continuellement sollicité aussi. La vraie question, c'est pourquoi devrait-on gérer ses applications, ses textos et tout le reste pendant qu'on conduit? La distraction au volant est en train de surpasser l'alcool comme première cause de décès chez les 18-24 ans en Amérique du Nord. Et on n'a pas fini avec ces gadgets-là. Une autre application, c'est la montre multifonction d'Apple. Cause aussi de l'inquiétude dans les milieux qui sont voués à la sécurité automobile. Un groupe d'intérêt public anglais prévient que la montre d'Apple pourrait réduire considérablement l'habileté des conducteurs et être une cause majeure de distraction et d'accident. La montre Apple, récemment dévoilée par la société mère de l'iPhone, permet de faire et de recevoir des appels téléphoniques, des courriels, des textos et même de prendre ses signes vitaux. Des alertes incessantes solliciteront l'attention des conducteurs. De plus, contrairement aux appareils main libre permis par la loi, la montre d'Apple requiert l'usage des deux mains. En Grande-Bretagne, l'usage de cette montre sera pénalisé comme l'usage du téléphone au volant. 3 points d'inaptitude et une amende de 100 livres, à peu près 180 $ et jusqu'à 2 ans de prison s'il est prouvé en cours que la montre a contribué à un accident, particulièrement un accident mortel. Dans la plupart des provinces canadiennes, la loi donne à la police le pouvoir de saisir ces appareils et d'en extraire les données d'utilisation en cas d'accident. La plupart des provinces canadiennes. Au Québec, les appareils portés au poignet, du genre de la montre d'Apple, ne sont pas spécifiquement interdits au volant. La SAC, Société d'assurance automobile, a pris acte de l'apparition de ces nouveaux appareils et un examen en profondeur est en cours. On aime beaucoup faire des études longitudinales ici. Actuellement, un policier pourrait utiliser l'article 439 qui interdit de conduire avec un écran pouvant afficher de l'information vue par le conducteur. Bon, en principe, l'article 439, est-ce qu'on va l'utiliser? J'en doute. Dans mon cas, je trouve ça un peu inquiétant de voir toutes ces choses qui apparaissent, particulièrement sur l'écran de notre pare-brise. Toutes ces données-là qui nous apparaissent peuvent, à mon avis, causer une distraction importante. Ben, le temps le dira, hein? C'était Denis Arcand, pas le cinéaste, non? Denis Agnès dans ce cas-ci. Denis Arcand, et c'était dans la presse, mais je n'ai pas apporté de la main la date de cet article.
Il y a très longtemps, il vivait de la mer. Il n'était bien que sur l'eau. Je revois ce moment, la fierté de mon père. Il n'avait pas à dire un mot. Il y a 5 ans, moi qui croyais bien faire, je me suis fait construire un bateau. Le rêve d'un enfant qui ne se doutait guère, le vent tournerait si tôt. Il y a plus au large de quoi vivre et manger, de se dire que les temps ont changé, de rentrer dans la marche, travailler à l'année, aller finir ça sur le chantier. Des poissons que je mets, vaut aller pareil, parce que c'est toujours sombre avant de voir le soleil, comme creuser ton sourire le matin au réveil. Il n'y a pas si longtemps, un appel de ma mère, je n'ai pas pu dire un mot. Et quand passe le temps, je repense à mon père qui me regarde là-haut. Qu'il n'y a plus au large de quoi vivre et manger, de se dire que les temps ont changé, de rentrer dans la marge, travailler à l'année, aller finir ça sur le chantier. C'est pas ça que je veux, mais je veux aller pareil, parce que c'est toujours sombre avant de voir le soleil, comme croiser ton sourire le matin au réveil. Que je veux, mais je veux aller pareil, parce que c'est toujours sombre avant de voir le soleil, comme croiser ton sourire le matin au réveil.
Donc, les temps ont changé. Ça, c'est pas le titre de mon article, c'est la chanson. Et c'est un groupe qui s'appelle Qui m'aurait cru? Assez spécial, hein? Qui m'aurait cru? Petit complément d'information sur Death Valley, dont je parlais précédemment. Alors, qui pourrait croire que dans cet univers désertique dominé par des canyons, des montagnes, des dunes de sable, se trouvent aussi des cratères volcaniques. Et dans la partie nord du parc, il y a le cratère Ubehebe, qui fait environ un kilomètre de diamètre sur plus de 200 mètres de profondeur. Et il est très accessible grâce à une route asphaltée. Et ce cratère-ci, c'est un cratère d'explosion formé par l'expansion soudaine de la vapeur d'eau formée par l'approche du magma de la surface terrestre il y a environ 300 ans, donc pas très vieux. Et il n'est pas le seul, on voit plusieurs autres petits cratères et cônes de cendres volcaniques dans le coin. Un sentier fait le tour du plus grand cratère. Les vents y soufflent régulièrement à près de 80 km/h. Et il y a un autre sentier qui descend jusqu'au fond du gouffre. Alors, vous voyez que Death Valley, on y trouve de tout, hein? Des canyons, des sommets enneigés, des sentiers asphaltés. C'est peut-être pas toujours pour le mieux, dans le sens que des quarts de touristes peuvent y accéder. Donc, vous allez avoir des hordes de touristes aussi. Mais il y a des sentiers qui peuvent être particulièrement intéressants. Donc, des cratères aussi qu'on y trouve. Tout autre ordre d'idée. Un tour de ville qui pédale et qui picole. C'est une invention routière qui permet aux habitants et aux visiteurs d'Indianapolis de picoler sur la route en laissant un conducteur sobre conduire. Ça s'appelle le Handlebar. C'est un véhicule à propulsion humaine. Chaque passager est assis sur un tabouret de bar spécial, muni d'un pédalier de vélo. Et tout en sirotant leur consommation, les 16 clients pédalent pour se rendre aux diverses étapes d'une tournée des bars d'Indianapolis. Des tours de ville sans escale dans les bars sont aussi possibles. Dans les deux cas, il faut payer environ 25 $. Vous apportez votre diète liquide, et l'entreprise n'a pas de permis d'alcool. Et au moins, les passagers brûlent une partie des calories qu'ils absorbent en route. Avant de monter à bord et de pédaler, mais de picoler, les clients doivent signer une décharge de responsabilité et porter un casque, à moins de recopier une décharge qui dit « On m'a offert le prêt d'un casque, mais je refuse ». Et les chances d'avoir au Québec, on nous dit, sont assez minces. La configuration de nos routes, de nos rues, on nous dit que c'est incompatible avec le réseau routier. Donc, le Handlebar à Indianapolis, assez particulier. Je parlais de texto tout à l'heure, les nouvelles technologies qu'on a dans les voitures, qui sont, à mon avis, un peu inquiétantes. Et la proportion de Canadiens qui juge que texter en conduisant devrait être considéré comme un acte criminel, selon un sondage mené auprès de 1500 d'automobilistes. Ils sont aussi 76 % à suggérer que la mauvaise habitude de se maquiller au volant soit passible de lourdes amendes. En 5 ans, des collisions fatales causées par des conducteurs distraits ont connu une hausse de 17 % au pays. Donc, 84 % qui nous disent qu'on devrait être plus sévère à l'endroit des conducteurs. Et petite dernière nouvelle, on a le temps ou à peu près. Et la dernière tendance du marché de la location d'appartements aux États-Unis, jouer la carte de l'honnêteté dans les petites annonces, histoire d'attirer l'attention des 20-30 ans, qui avancent certaines agences immobilières, ne croient pas aux descriptions exagérément positives. Quelques perles qui sont repérées dans le Wall Street Journal. Un taudis pas ordinaire. Eau courante, chauffage occasionnel. Homicide peu fréquent. Autre, ça pourrait être pire. Et voilà qui met fin à notre émission. On remercie à la mise en onde et aux choix musicaux Jean-Sébastien Daliberté. Notre site canalm.org et on est en reprise à 13h et à 21h. On vous souhaite une très bonne journée.